Et c'est l'heure où on dit bonjour aux gens en Estrie qui nous écoutent via le 107.7 en Outaouais au 104.7 et toujours à l'écoute, bien sûr, dans la grande région métropolitaine au 98.5 FM. Dany Saint-Pierre nous rend visite pour la dernière fois cet été. Ça a tellement été un plaisir de l'avoir à tous les jeudis. Et là, il va nous donner, en fait, des idées pour la rentrée. Vous savez, les lunchs qu'on doit faire aux enfants, là, puis il y en a pas mal, les lunchs qu'on doit faire, c'est tous les jours, puis si vous multipliez par le nombre d'enfants que vous avez à la maison, si vous ne faites pas votre lunch, vous aussi. Alors, des idées pour vous simplifier la vie pour la rentrée, je pense qu'on va en avoir bien besoin. Et pour cette prochaine demi-heure, on va s'intéresser aux microbrasseries, parce qu'au Québec, on aime ça, la bière, on en consomme beaucoup, et on aime également se promener de région en région pour découvrir les microbrasseries. Il y a même la route des bières à certains endroits où on peut justement faire un parcours gustatif, je pense qu'on peut l'appeler comme ça aussi, pour découvrir ces types de bières. Et chaque région a différentes spécificités. Je sais qu'il y a une bière, on en a parlé d'ailleurs à l'émission, au crabe sur la Côte-Nord. Il paraît qu'elle est bien, bien bonne aussi. Il y en a au bleu, il y en a différents types. Puis on va en parler justement avec Martin Thibault, qui est auteur de plusieurs livres sur la bière, chercheur sur les styles de bière méconnus de l'Occident. Bonjour Martin, merci d'être là. Il y a vraiment une grande, grande croissance des microbrasseries au Québec là, depuis plusieurs années.
C'est sans arrêt. C'est vraiment, c'est captivant, c'est très stimulant. Je pense que ce qui se passe dans le milieu de la microbrasserie ces temps-ci, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans le monde des supermarchés là, 20-25 ans, lorsque les supermarchés et grandes surfaces ont comme réalisé que les Québécois étaient vraiment gourmands, qu'ils aimaient ça découvrir des nouvelles saveurs, faire des nouvelles recettes. Puis on peut pas retourner en arrière. Lorsqu'on va faire l'épicerie, on s'attend à avoir plein de diversité, oui. Puis on s'attend à avoir du plaisir à tous ces ingrédients-là. Mais le monde de la microbrasserie, depuis une dizaine d'années, est carrément là-dedans aussi, là. Donc, on peut les gens qui commencent à déguster des bières de microbrasserie ne veulent pas retourner à boire une bière qui goûte pas grand-chose, une bière qu'on utilise pour se saouler. Là. C'est vraiment deux milieux complètement différents.
Plus commercial, tu vois, ça domine le nom.
Ben, c'est ça, mais c'est pas des produits affreux du tout. Là. C'est juste que c'est deux catégories de produits complètement différents. C'est un peu comme le pain blanc tranché puis des miches de pain beaucoup plus riches. Les deux ont leurs objectifs, disons. Là. Donc, le milieu de la microbrasserie est rendu dans vraiment la diversité des saveurs, des arômes vraiment stimulants et très, très différents. On s'inspire de tradition brassicole américaine, anglaise, belge, allemande, tchèque, puis on s'inspire de ce qu'il y a aussi dans nos champs, ici au Québec. Donc, on fait pousser des ingrédients aussi, ou comme vous disiez, le crabe sur la Côte-Nord.
J'ai pas goûté. Est-ce que vous l'avez goûté?
Ben oui. C'est une très belle bière. La base, c'est une bitter anglaise. Donc, on dirait ici, c'est une bière rousse bien maltée, donc un petit peu caramélisée, délicate. Puis évidemment, ça coûte pas le crabe à 100 000 à l'heure. Là.
Avec le beurre à l'ail avec?
Non, c'est ça. C'est vraiment juste une petite touche saline. Puis si on le sait qu'il y a eu du crabe dans le bouillon lorsque les brasseurs ont confectionné la bière, bien là, on va peut-être le trouver. Là. Mais c'est vraiment... Si on donne ça à l'aveugle à quelqu'un, puis on lui dit « Ah, ça, c'est une belle petite bière rousse, un peu caramélisée, il va la boire sans problème. »
Il verra pas la différence.
Non, mais c'est comme un bon brasseur, c'est comme un bon chef cuisinier. C'est dans la parcimonie puis l'intelligence du dosage qu'il y a une réussite. Puis cette bière-là, je pense que c'est vraiment une réussite, entre autres à cause de ça, parce que le crabe est utilisé avec parcimonie. À part le nom, évidemment, crabe, avec les trois accents circonflexes. Là,
comme on le dit sur la Côte-Nord, du crabe.
Ouais, c'est ça, ça fait jaser.
Mais qu'est-ce qui fait que la bière est devenue aussi populaire au Québec? La bière a toujours été populaire, là. C'est sûr, on a toujours aimé ça, on en a bu, puis peut-être des fois trop dans certains rassemblements. Mais pourquoi les microbrasseries, pourquoi on a développé ce goût-là plus spécifique, davantage même que le vin québécois, là, parce que c'est rendu très populaire.
Ouais, ben, comme je disais tantôt, il y a un peu le phénomène des épiceries puis la diversité des produits, mais aussi, je pense que les microbrasseries ont tendance à s'installer dans des endroits bucoliques où ils créent leur propre endroit qui est vraiment de toute beauté visuellement. Par exemple, je pense à un pub à Sutton qui s'appelle l'Auberge Sutton Brewery. Brew comme la broue, là, pas brewery en anglais. Là. Mais cet endroit-là, non seulement la bouffe est fantastique, là, le repas peut être gastronomique si on veut, non seulement la bière est complexe et digeste et de toute beauté, mais en plus, lorsqu'on est assis à table avec nos amis, puis on déguste tout ça, on regarde partout autour de nous, puis chaque coin de mur est beau, chaque luminaire est travaillé. Donc souvent, même si on invite quelqu'un avec nous qui n'aime pas tant la bière, ben, premièrement, cette personne-là peut prendre du vin, évidemment.
Il y a d'autres choses.
Ouais, c'est ça, là. Mais en plus, cette personne-là va faire « Wow, c'est bien beau ici, c'est bien agréable. » Puis la majorité des microbrasseries au Québec ont compris ça, que ça prenait un nouveau perron d'église, ça prenait un endroit où, pour se rassembler avec ses amis, avec sa famille. Ça a pas l'air d'un resto gastronomique, ça a pas l'air d'une taverne du tout, mais c'est comme un bel entre-deux, illuminé, éclairé entre les deux, avec beaucoup d'artisanat local, avec un engagement aussi avec les artistes du coin, des spectacles la fin de semaine. Donc, ils ont vraiment créé un milieu qui leur est propre.
Mais est-ce que ça prend ça absolument maintenant pour une microbrasserie d'offrir une panoplie de services où on peut simplement faire une bonne bière, apprécier et tenter de la vendre? On doit absolument avoir un endroit là, spécifique.
Je pense que les deux peuvent coexister. Là. C'est sûr que les gens ne reviendront pas si les produits sont inintéressants. Ouais. Mais en général les brasseries qui s'installent en région, par exemple, je pense à c'est des brasseries dans le fin fond de la Gaspésie ou dans Bellechasse ou sur la Côte-Nord, comme on parlait tantôt, ben ils deviennent un lieu d'un rassemblement. Donc, qu'ils veuillent ou non, même s'ils faisaient la meilleure bière au monde, la mieux cotée au monde, ben les gens, ils veulent passer plus qu'une heure là. Puis à un moment donné, à boire de la bière, il faut faire autre chose, là, sinon on n'apprécie plus ce qu'il y a autour de soi. Là. Donc, puis ces microbrasseries-là ont compris que ça serait le fun d'avoir telle bande locale, ils sont vraiment bons, sont appréciés. Puis ça serait le fun d'avoir tel plat avec tel ingrédient qui vient du champ de la voisine là-bas parce que notre chef, il travaille très bien avec ces ingrédients-là. Puis donc, je pense par la force des choses, ces entrepreneurs-là locaux ont remarqué que on pourrait vraiment devenir le phare de notre région pour éclairer les petits villages au coin puis faire venir le monde.
Ouais. Et maintenant, les bières de microbrasserie, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus disponibles. On parlait de supermarché. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'ai bu une super de bonne bière en région, peu importe la région, je peux quand même la retrouver embouteillée.
Oui.
En majorité maintenant, on peut dire ça, ouais.
Oui, c'est ça. Il y a à peu près la moitié des brasseries du Québec qui ne font que du fût, donc qui n'offrent que leur bière sur place en fût. Mais l'autre moitié qui fait de la bouteille et qui distribue ça un peu partout en province, selon les besoins de chacun, évidemment. Il y en a qui préfèrent rester dans leur région, et ça, c'est parfait, évidemment, parce qu'on veut encourager la consommation locale puis l'économie locale.
Parce qu'à l'embouteiller, est-ce qu'on perd le goût? Est-ce que certaines microbrasseries, je sais qu'il y en a qui ont essayé puis ça plus ou moins bien fonctionné?
Bien, évidemment, ça prend de l'équipement, de l'équipement à la fine pointe de la technologie pour que le produit demeure stable. Mais la majorité des microbrasseries ont ça maintenant. Il y a très, très peu de produits de piètre qualité sur le marché. T'sais, on parle de 20 ans, 15-20 ans, il y en avait quelques petites brasseries ici et là qui faisaient des produits plus ou moins intéressants, mais ça, c'est presque disparu. Là. On est vraiment... Il y a une génération de brasseurs qui est née directement dans un monde de saveurs. Cette génération de brasseurs-là sait déjà que la barre est haute. Puis si on veut rejoindre les dieux du ciel et les brasseries d'Onam et les pits de Caribou et les bonnes brasseries du Québec, faut faire des produits de très bonne qualité.
Mais justement, pour un brasseur, tu commences comment? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui se lancent là-dedans puis qui sont passionnés. Il y a une formation, est-ce qu'il y a des cours, une façon de faire également? Il faut aller voir un mentor?
Ça, c'est très récent qu'il y a des cours. Par exemple, il y a le Cégep à Jonquière qui offre une formation en production en microbrasserie, en brasserie, pas en microbrasserie. Là.
Ah ouais.
Donc, il y a ce Cégep-là qui a cette formation-là. Mais sinon, au Québec, il y a des formations pour devenir sommelier, il y a des formations pour apprendre à déguster la bière, puis apprendre à connaître la culture de la bière. Évidemment, moi, j'écris des livres là-dessus aussi, puis des articles, puis tout ça. Mais pour apprendre à brasser, à part la formation à Jonquière, c'est vraiment, ça prend une curiosité personnelle. Il faut acheter son équipement, il faut commencer à faire ça à la maison. Moi, je compare souvent la bière à la boulangerie, à la pâtisserie. T'sais, on peut à la maison faire du très bon pain puis des bonnes pâtisseries. C'est sûr que si on veut se rendre à un niveau international, niveau qualité, là, on a besoin d'autres choses. Là. Mais pour apprendre, il n'y a rien de mieux que des bons chaudrons, des bons équipements à la maison. Puis là, on goûte vraiment nos erreurs, puis on apprend vraiment rapidement.
On goûte nos erreurs, parce que j'imagine la première fois...
Ça ne sera pas la meilleure, mais au niveau apprentissage, ça va probablement être la plus mémorable.
Et puis pour s'équiper, est-ce que c'est cher? Parce que je me rappelle les fois où on disait on va faire du vin, où c'était pas toujours heureux, puis il y avait quand même un prix associé à ça aussi. Là, maintenant, est-ce que ça s'est démocratisé, donc c'est peut-être moins cher?
Bien, ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment. Ouais. Si,
production maison...
Si on va dans des magasins comme Mou International, sur le bord de l'autoroute qui a tout ce qu'on veut, ben ils vont vous suggérer, ben ils vont vous poser des questions. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez juste commencer juste pour le fun? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus sérieux? Puis là, évidemment, ça peut passer d'une centaine de dollars à des milliers de dollars très rapidement. Ça dépend ce qu'on veut faire. C'est encore là comme la boulangerie-pâtisserie. Est-ce qu'on veut juste faire un petit gâteau une fois de temps en temps ou est-ce qu'on veut faire le gâteau pour la fête à sa conjointe qui va être de toute beauté? Là. Ça dépend ce qu'on veut faire.
On va parler justement de quelques suggestions de bière après la pause, Martin. Ouais. D'ailleurs, j'invite les gens, si vous avez des suggestions à nous faire, peut-être de microbrasseries que vous avez visitées durant l'été qui méritent justement le passage, pourquoi pas, 1-866-790-9850, 514-790-9850. On s'intéresse aux microbrasseries québécoises avec Martin Thibault, qui est auteur de plusieurs livres sur le sujet, chercheur également sur les styles de bière méconnus de l'Occident. Et ça m'intéresse particulièrement, mon cher Martin.
Moi aussi, ça m'intéresse.
Quelle recherche tu fais sur ces bières méconnues de l'Occident? Parce que là, tu reviens même de Finlande.
Oui, j'arrive de Finlande. Je suis encore un peu sous le décalage horaire.
Mais ça paraît pas.
C'est pas si pire. Mais c'est tôt le matin. C'est ça. L'été passé, j'ai passé du temps dans l'Himalaya, au Bhoutan, plus précisément. Je fais des recherches sur des styles de bière que les gens ne connaissent pas ici. Et ici, ça veut dire l'Amérique du Nord puis l'Europe aussi. Parce que je pense que le monde de la bière, c'est plus que ce qu'on fait dans le monde occidental. Puis, par exemple, au Bhoutan, dans l'Himalaya, il y a des milliers de fermières et de fermiers qui font leur propre bière. Ils sont autosuffisants, puis ils font ça. Mais il n'y a pas de documentation qui existe là-dessus. Alors, moi, je fais des recherches là-dessus. Je vais pas cogner aux portes des fermes, mais je trouve des gens là-bas qui m'aident à trouver les fermiers. Puis je passe du temps avec eux, j'essaie d'apprendre comment ils vivent, comment ils brassent la bière, évidemment. Puis je goûte à ces bières-là aussi, c'est vraiment c'est pas désagréable.
Il y a l'histoire attachée également aux bières qui
Ben oui, c'est culturel. Ouais. Par exemple, en Finlande, là, j'ai appris que la sarti, qui est le style de bière qu'ils font là, sur les fermes là-bas, c'est surtout pour les mariages. Je trouve ça vraiment c'est charmant. T'sais, c'est pas la bière qu'ils boivent à tous les jours, parce que c'est une bière vraiment riche, un peu comme un gâteau de grand-maman. Là. Aussi, le gâteau de grand-maman, elle ne le fait pas à tous les jours. Là.
C'est sucré,
ouais. C'est ça, c'est vraiment plus lourd, c'est vraiment riche. On prend une portion et on est ouf, vraiment comme le gâteau. Là. Mais évidemment, comme la grand-maman va nous offrir une deuxième portion, même si on n'a plus faim, ben, les fermiers là-bas, ils vont nous offrir un autre verre, même si on n'en veut plus. Mais parce que ce produit-là, pour eux, c'est comme un cadeau. Comme on a fait ça, on a fait ce produit-là qui est vraiment riche. Puis on est content de vous voir, on vous l'offre, puis on vous en offre encore parce qu'on est vraiment, vraiment content de vous voir. Puis moi, c'est ça qui me passionne, c'est de ça que je parle sur les coureurs des boires.com. Puis dans les magazines aux États-Unis, puis au Québec, dans le magazine Exquis, je parle de ça souvent. Dans le journal Bière et Plaisir, je parle de ça souvent.
Et la bière que tu as appréciée parce que tu as fait quand même plusieurs voyages, qu'est-ce qui est sorti? Pas mal. Oui.
en fait, dans les derniers mois, si je parle de la Finlande. C'est vraiment, j'ai passé une journée formidable à apprendre à brasser chez une famille qui s'appelle la famille Virheroja. Mon finnois est affreux. Mais c'est ça, le monsieur faisait une bière, ça ressemble à, je dirais, une rousse à la québécoise. Donc vraiment un peu caramélisée, une petite touche terreuse, feuillue. Vraiment facile à boire, mais vraiment une belle céréale ronde. Là. Puis cette famille-là, on a passé une superbe journée avec eux. On apprenait à brasser, mais en même temps, en retournant à la table à la famille, dans la maison de la famille, à toutes les heures à peu près. Puis cette bière-là, évidemment, je suis émotif, donc le moment était merveilleux, mais ce monsieur-là, qui s'appelle Olavi, qui brasse depuis 30 ans, qui brasse la recette à son père dans un équipement vraiment rustique, dans une pièce à côté de la pièce où les vaches de la famille sont, cette bière-là, pour moi, est très significative.
Oui.
Puis c'est ça. Donc mes recherches sont pas basés sur des trouvailles exactement comme ça, mais c'est sûr que c'est tellement merveilleux de trouver des gens qui s'ouvrent, qui ouvrent le livre familial, qui sont hyper honnêtes avec nous.
Hyper généreux aussi d'accueillir comme ça.
Hyper généreux, ils nous nourrissent comme si on était des cousins qui n'ont pas vu de longue date. Là. Puis ça, j'essaie de rapporter ça au Québec, puis j'essaie de partager ces histoires-là avec les brasseurs du Québec pour leur dire que ben il y a d'autres saveurs qui existent sur la planète, il y a d'autres choses vraiment vraiment satisfaisantes au niveau saveur, mais aussi il y a des belles histoires, puis parce que la bière en Amérique du Nord, je pense vraiment que c'est on a été éduqués par la bière industrielle. On oublie que la bière, ça accompagne des populations de la naissance jusqu'à la mort. Il y a vraiment dans différents pays, par exemple au Bhoutan, comme je disais tantôt, dans l'Himalaya, les fermiers vont faire une bière, je me dis guillemets, là, une bière en guillemets pour une femme enceinte. Pas parce qu'ils veulent lui donner de l'alcool, évidemment, il n'y a presque pas d'alcool dans ce produit-là, mais ils vont faire une espèce de potage avec des œufs, avec beaucoup de céréales. C'est légèrement alcoolisé, comme la bière qu'ils font sur les fermes, mais ils donnent ça à la femme enceinte pour la nourrir, parce que c'est nourrissant. Puis en Estonie, par exemple, je suis allé là il y a 2 ans, sur les fermes en Estonie, quand le fermier il commence à brasser, puis il est rendu à l'étape de soutirer le moût. Donc le moût, c'est le jus sucré de la céréale. C'est pas encore fermenté, il n'y a pas d'alcool. Donc quand il soutire le jus sucré de la céréale, il appelle ses enfants. Puis ses enfants, ils viennent, ils boivent. T'sais, c'est comme nous à la cabane à sucre quand on boit du réduit. Oui. Là, c'est la même chose. Les enfants, ils courent, ils arrêtent de jouer, puis ils courent, puis ils commencent à boire le moût de la céréale. Donc il y a plusieurs cultures sur la planète brassicole qui... ils ont une tradition brassicole qui n'est pas industrielle comme la nôtre. Ça touche l'enfance. Il y a des bières, par exemple, en Finlande qui sont faites pour les funérailles. Il y a des gens qui vont dire, mettons qu'ils sont très malades, quand je meurs, je veux que toi, tu me fasses une bière, puis on va servir ça à mes funérailles.
Ah, ça va jusque-là.
C'est important à ce point-là. Puis les bières de mariage, la bière que M. Olavi m'a montré à brasser, c'était pour un mariage de quelqu'un dans le village. C'est si important que ça qu'ils vont servir la bière de M. Olavi au mariage. Moi, je trouve ça touchant. Je trouve que ça nous rapproche vraiment de l'identité de la bière. La bière, ça accompagne le quotidien, puis ça accompagne des moments importants dans nos vies. C'est pas juste un produit industriel. En Amérique du Nord, on n'a pas cette culture brassicole-là parce que les premières brasseries en Amérique du Nord ont été souvent des brasseries industrielles. C'est elles qui ont pris la place, puis qui ont nourri les gens, puis qui ont abreuvé les gens, puis c'est bien correct. Mais si on voyage comme ça dans des pays non occidentaux qui n'ont pas été encore hyper industrialisés, comme le Bhoutan, comme les îles en Estonie, comme le Pérou, etc., là, on découvre que, ah, my God, la bière, ça fait partie du quotidien des gens, puis ça fait partie de leurs moments spéciaux, des moments importants.
Mais ça pourrait pas arriver au Québec comme ça, parce que on parlait de communauté, on parlait quand même de pratiquement chaque région a sa microbrasserie, si c'est pas plusieurs aussi, il y en a 250 au Québec, donc il y en a beaucoup, ça pourrait pas devenir ça aussi?
Je pense que oui.
Ça change tranquillement, là, les goûts changent.
Je pense que oui, les goûts changent. Ceux qui commencent à boire de la bière à 18 ans, là, ils tombent déjà dans un milieu brassicole qui est vraiment riche, qui est riche en saveurs, qui est riche au niveau communautaire aussi. Ils savent que dans leur coin, il y a telle brasserie là-bas avec une bonne cuisine, puis les amis aiment ça se rencontrer là-bas. Il y a beaucoup plus de gens, de jeunes, qui tombent dans le milieu. Ils tombent dans la marmite déjà tout de suite en partant. Puis ça, je pense que ça peut nous mener éventuellement à avoir une culture brassicole au Québec qui n'est pas seulement industrielle, qui est aussi reliée vraiment à l'emplacement de la brasserie puis aux gens qui la brassent. On connaît le brasseur. Le brasseur, il se rend disponible. On peut lui parler. Il est là, on le voit. Il est en arrière de la fenêtre là-bas. Là, on le voit en train de tuer. Là. On peut aller lui poser des questions sur la bière qu'on a bu sans problème. Il va sortir à un moment donné puis il va être content de nous parler. Donc, je pense que la génération de 18-30 ans qui est tombée dans la marmite, si on veut, eux, ils vont montrer ces choses-là à leurs enfants aussi éventuellement. Puis là, la culture brassicole québécoise, elle va devenir infiniment plus riche.
Mais puis qu'est-ce qu'on boit le plus au Québec? Est-ce qu'on est plus vers encore la blanche, les blondes?
Je pense que c'est pas juste au Québec comme ça. Je pense que partout dans le monde occidental, surtout l'été, là, on veut quelque chose de rafraîchissant avec les chaleurs écrasantes qu'on a eues. Là. Donc, c'est sûr qu'une belle bière blonde avec des petites touches de céréales, puis un petit houblon herbacé, c'est vraiment bon. Puis une blanche d'inspiration belge, celle qu'on aime bien au Québec, donc qui est aromatisée à la coriandre puis à l'écorce d'orange, c'est vraiment rafraîchissant. Donc c'est sûr que la majorité des ventes, même des microbrasseries, c'est sur la petite blonde, en guillemets, puis c'est sur la blanche d'inspiration belge. Puis il y a des exceptions, évidemment, mais comme là, il y a un autre style qui s'appelle la IPA, la famille India Pale Ale, qui est hyper populaire. Oui. Les Américains raffolent de ça. Puis évidemment, nous aussi, on raffole de ça aussi parce que ça sent les fruits tropicaux, ça sent la forêt, c'est vraiment hyper aromatique, ça sent les fleurs. C'est sûr que c'est plus intense en goût, là. Donc, on ne prend pas trois pintes d'IPA habituellement, là, parce que c'est un peu trop intense, mais il y en a qui sont très capables. Là,
oui, c'est ça, j'allais dire. Mais... ça ne les gêne pas bien, bien.
Mais ça aussi, ça commence à être hyper populaire. C'est pas mal ça qu'on boit au Québec. Les microbrasseries vivent de ces produits-là. Puis évidemment, ils ont comme 25 autres sortes à découvrir, là, mais en point de vue de volume, c'est vraiment ça.
Et quand on va dans une microbrasserie, on nous présente toujours les dégustations qu'on peut faire, là, les fameuses palettes. Là. Puis moi, je commence par quoi? La plus forte, la moins forte? Je mange des arachides en même temps? Il y a une façon de déguster la bière aussi qui est aussi un art que comme le vin. Là.
Ben oui, c'est sûr. Si on parle de la palette en particulier, c'est sûr qu'une bonne microbrasserie va vous monter une palette en ordre d'intensité. Donc, il y aura la bière la plus délicate en premier, puis ils vont vous expliquer que si vous allez de gauche à droite, à droite, ça va être plus goûteux, ça va être plus long en bouche. C'est pas une bière que vous allez peut-être commander à la pinte. Donc, c'est sûr que si on va de gauche à droite, donc de délicat à de plus en plus intense, c'est une des façons de fonctionner en dégustation. C'est sûr que moi, je recommande toujours de boire de l'eau. C'est sûr que quand on boit de la bière, c'est un peu plate de boire de l'eau, mais si on veut déguster, ouais. Surtout si on a la palette de dégustation, si on veut se nettoyer le palais entre chaque dégustation, bien c'est sûr que boire de l'eau, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ou prendre un bout de pain, évidemment, un bout de pain qui n'est pas trop aromatisé, bien sûr. Puis c'est ça, on passe d'une à l'autre, puis on découvre ce qu'on préfère. Il y a tellement de saveurs potentielles. Je parle même pas de saveurs ajoutées, juste de saveurs qui viennent des céréales, des houblons, puis de la fermentation. Il y a vraiment... On a écrit un livre là-dessus qui a pris 600 pages. Il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de potentiel juste avec les ingrédients de base. Et là, en plus, on rajoute des ingrédients, des bleuets du coin, puis le thé du Labrador, puis là, c'est infini.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est à l'infini maintenant. Ouais.
C'est ça, parce que la bière, c'est pas un alcool comme le vin ou le whisky, qui est un ingrédient qu'on a poli à l'extrême pour faire quelque chose qui brille de pureté. C'est vraiment pas ça, la bière. La bière, elle peut briller de pureté aussi, mais elle est confectionnée de céréales, diverses céréales. Il y a du houblon. Le houblon, c'est comme l'épice qu'on met dans la soupe, disons. Là. Donc, il y a plein de variétés de houblon. Puis en plus, il y a des notes qui viennent de la fermentation. Puis en plus, là, si on commence à rajouter des bleuets et fruits et compagnie, bien là, il y a au moins quatre sources de saveurs potentielles qui interagissent. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de boulangerie-pâtisserie. Puis quand on fait un gâteau, c'est pas juste un ingrédient. Là. Il y a plusieurs ingrédients dans le gâteau, plusieurs textures. Bien, la bière, c'est ça aussi. Donc, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis passionné de ça, évidemment. Là. C'est exponentiel, le potentiel de saveur dans une bière. Puis si le brasseur aime utiliser divers ingrédients, bien là, c'est sans fin aussi. Ouais.
On parle justement beaucoup de marijuana ces temps-ci avec la légalisation le 17 octobre. Il y a Molson qui veut se lancer dans l'industrie, justement. Tu penses quoi, toi, une bière aux potes?
Ben en fait, la marijuana et le houblon partagent beaucoup d'arômes, de saveurs. C'est vraiment le lien est très facile à faire. Je commenterai pas sur une bière qui contient vraiment du THC. Ça va être alcool et THC en même temps. Je sais pas où est-ce que ça peut nous mener. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres cultures sur la planète qui ont fait ça, là. Même au Bhoutan, ils font pas ça. Là. Même s'il y a du pot qui pousse partout, les gens n'ont pas le droit de fumer là-bas. Là, mais, donc, ça pousse partout. Mais bref, je pense que c'est sûr qu'il y a beaucoup de brasseries qui vont s'essayer, qui vont faire des choses, au pire, juste pour aromatiser la bière, donner un arôme, c'est quelque chose qui sent le marijuana, mais qui peut-être ne contient pas beaucoup de THC. Je sais qu'il y a des brasseries qui ont déjà fait des tests.
Oui, c'est déjà arrivé, ça, on l'a vu avec le chanvre, ouais, là, oui.
C'est ça. Mais avec marijuana, ça, c'est un autre ouais, niveau. Puis c'est vraiment nouveau. On peut pas s'inspirer d'une culture brassicole X sur la planète parce que j'en ai fait des pays, là, ça n'existe pas, cette tradition brassicole-là. C'est vraiment nouveau, c'est vraiment 21e siècle. Moi, je suis ouvert à ça. S'il y a des brasseries qui utilisent ça de façon intéressante, c'est un autre ingrédient, comme en cuisine. Là, si on trouve, une baie qui sent les fleurs quelque part dans le Grand Nord du Québec, mais pourquoi pas utiliser ça en cuisine? Il faut juste apprendre à l'utiliser, puis pas être niaiseux avec. Puis comme je disais tantôt, avec parcimonie, avec un dosage intelligent, ça peut être vraiment intéressant.
Si je te demande tes suggestions, disons, pour cet été, là, c'est des bonnes bières que tu as dégustées que tu pourrais nous suggérer. Justement, il fait encore beau. Il va faire chaud aussi dans les prochains jours. Tu nous suggères quoi?
Pour sortir du créneau blonde, blanche et compagnie, oui, juste pour
changer un peu. Ouais. Là,
ouais. Un des styles que j'aime le plus sur la planète, ça s'appelle la saison. Donc, saison, pas une bière saisonnière, mais la saison, c'est un style qui vient de la Belgique. Puis on fait, il y a plusieurs brasseurs au Québec qui en font, comme la saison rustique de la brasserie de Nam, par exemple, qui est fantastique. L'auberge de Sutton, dont je parlais tantôt, ils en font aussi une saison fantastique. Puis il y a un autre terme qui s'appelle grisette. Grisette, qui fait référence aux mines encore en Belgique, une bière que les miniers buvaient. Ces deux saisons et grisette, ce sont deux styles de bière qui sont vraiment sèches, donc très peu sucrées. Des petites touches de céréales, petites touches herbacées, c'est vraiment délicat. Ce sont des bières absolument blondes, blanches de couleur, là, mais c'est pas une blanche comme la coriandre et écorce d'orange. Là. Donc, saison et grisette. Par exemple, à Sutton, c'est la grisette de la marmite. Je trouve ça formidable comme bière. C'est pas fort en alcool, mais c'est plein de saveurs, mais c'est digeste, c'est facile à boire, comme la saison rustique de Dunham que je mentionnais. Dieu du ciel à Montréal, puis à Saint-Jérôme, ils ont fait de la saison du parc. C'est de toute beauté, un petit peu plus houblonné, un petit peu plus floral, herbacé. Un peu plus long en bouche, mais encore là, pas trop alcoolisé, facile à boire. Saison grisette, moi, je suis vendu. Quand une brasserie en fait une bonne, c'est ça que j'achète quand il fait vraiment trop chaud, comme ces temps-ci. Là.
Oui, oui, je pense qu'on en a besoin aussi. Martin Thibault, c'est un grand plaisir de t'avoir reçu à l'émission. On peut te suivre sur lescoureursdesboires.com. Ouais. Ça va plus de détails. Pour les livres également, là, si on veut en savoir
ouais,
également
c'est
davantage.
Partout, dans Renaud Bray et compagnie.
Martin Thibault, merci beaucoup d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous. 11h34, on s'arrête quelques instants et Dany Saint-Pierre est avec nous pour nous simplifier la vie à la rentrée.